stool.
Ou stool.
À table.
À table.
Produire,
récolter,
transformer,
cuisiner,
transmettre.
La nourriture nous relie et fait vivre nos imaginaires.
Alors écoutons, partageons
et régalons-nous en suivant cette émission proposée par l'association 4K.
Tous les chemins mèneront à l'assiette.
Bonjour et bienvenue à la table de l'association 4 quarts qui vous propose cette émission goûtue et même bien relevée ce mois-ci. Oustole est une émission qui vous promet de la bonne chair et du bel esprit en compagnie d'un sujet et d'une tablée, vous le savez maintenant. Et aujourd'hui, cependant, il ne sera pas question de produits ni de coutumes alimentaires, quoique on tente cette fois de réfléchir à notre système alimentaire pour voir comment le rendre robuste au sens d'Olivier Hamant, qui est biologiste au départ.
Et donc ça, c'est Valence en Espagne, 400 litres d'eau par mètre carré en quelques heures, donc une méga inondation et des gros dégâts, évidemment. Et donc ça, ça illustre assez bien le monde dans lequel on rentre. Donc c'est un monde où on quitte la continuité pour entrer dans les ruptures. Donc un monde qui devient de plus en plus variable. C'est le monde de la polycrise, le monde de la permacrise. Il y a tout un champ sémantique de la variation. Hein. Le monde VUCA, le monde banni, le monde des tempêtes. Enfin bon, il y a tout un champ des cyclades. Mais en fait, c'est plutôt pour dire que c'est ce qu'il y a en commun dans tous les rapports scientifiques sur le monde qui vient. Ça va devenir de plus en plus variable et on en prend pour 2 ou 3 siècles. Donc c'est quelque chose qui va durer longtemps. Et chaque année, ça va être de plus en plus variable. Donc ça, c'est ce que disent les scientifiques. Mais on peut se demander pourquoi ça nous tombe dessus. Et en fait, si on va chercher une sorte de cristal, une cause profonde à ça, bah c'est notre culte pour la performance. On pense performance du matin au soir. Parce que la performance, hein, au départ, hein, c'est l'art de bien faire, hein, la performance. Sauf que c'est devenu, avec le contrôleur de gestion, la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience, avec le moins de moyens possible. Et donc maintenant, bien faire, c'est être efficace et être efficient. Et donc, il y a une valeur morale à être performant. Alors, c'est très compliqué, ça, parce que ça veut dire que dans nos vies, eh ben, on fait de la performance du matin au soir. Hein, comment on sépare les fourchettes et les couteaux, comment on empile les assiettes, la planification des vacances, le trajet domicile-travail. Nous avons tellement tout suroptimisé que tout craque. Alors, l'exemple typique, hein, dans les écosystèmes, c'est la monoculture. Une monoculture, c'est un terrain d'atterrissage pour des pathogènes. Ça attire, hein. Et donc c'est l'agroécologie évidemment qui sert de frein aux pathogènes. Depuis 2000, la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5 en France. On est rentré dans le monde fluctuant et ça va continuer à fluctuer de plus en plus. Alors comment on fait pour vivre dans ce monde fluctuant ? Alors j'ai mis un arbre parce que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant et donc ils ont des recettes, des lois, des principes qui leur permettent de vivre dans les fluctuations. Et donc, c'est l'hypothèse toute simple, c'est de se dire, mais et si on regardait comment font les êtres vivants ?
Un extrait d'une conférence du 26 juin 2025 qui a été donnée à l'IUT de Bordeaux-Montaigne. Donc voilà une idée de ce qu'est la robustesse, un concept que l'association 4 quarts trouve intéressant, d'autant plus qu'il s'applique en particulier à notre système alimentaire. Et pour discuter de cette question grave, la tablée du jour se compose de Sophie Kouka, Françoise Doucet et Liane Lardier. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Merci d'être là pour nous rassasier l'esprit. Alors, c'est déjà la troisième émission Oustole version 2025. Les habitudes s'y installent, comme celle de commencer par vos impressions personnelles liées à ce sujet qui n'est pas encore un sujet familier pour tout le monde. Mais quand je vous dis robuste, qu'est-ce que ça vous inspire ?
De la force pour avancer.
Réduire sa performance, ce qui peut être au début contre-intuitif.
Surtout dans le monde dans lequel on vit.
Moi, je vais commencer par un exemple que tous les Français connaissent, c'est la 2 chevaux.
Ah oui. C'est pas alimentaire pour le coup, mais c'est un bon exemple.
Mais c'est un bon exemple. D'abord parce que ça nous permettra de dire, mais je pense qu'on aura plein d'exemples là, pour dire que la robustesse, c'est pas forcément une invention. C'est des choses que, au contraire, nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres, finalement, on se faisait très bien.
Même si c'est une pratique, on peut dire aussi, un comportement. Enfin,
oui, c'est ça, une façon de gérer la vie. Mais la 2 chevaux, qui, au demeurant, était une performance de R&D et d'ingénierie. C'est, contrairement à ce qu'on peut penser, il y avait beaucoup de jus de cerveau dans la deux chevaux. C'était une voiture qui était conçue pour être tout-terrain, être facilement réparable. Enfin, voilà, c'était une voiture robuste. Mmh. Effectivement, c'était pas une Mercedes, ça fondait pas à 100.
BMW.
J'ai connu une deux chevaux trafiquée qui pouvait pulser à 140 sur l'autoroute, autant vous dire qu'on a l'impression qu'on allait s'envoler, mais bon, ça c'était de la robustesse. Et c'était fait pour être une voiture, effectivement, que les gens puissent réparer par eux-mêmes, qui puisse durer très longtemps. C'est aussi pour dire que c'est pas finalement si neuf, l'idée de robustesse.
Bah ça rejoint la lenteur d'Eliane. Hein,
oui, mais même, je reprends comme Sophie vient de dire, au bus, j'ai dit, quand par exemple avant, les gens avaient, je ne sais pas moi, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, et il n'y avait pas les restos du cœur, il n'y avait pas le social, il n'y avait pas le chômage. Comment faisaient ces personnes-là avec 7 enfants? Est-ce qu'ils attendaient que d'aller à la mairie pour demander à manger? Ou est-ce qu'ils avançaient et faire, comme on dit, se débrouiller pour pouvoir nourrir ces 7 enfants? Ils n'allaient pas non plus taper à la porte du voisin.
Ah ben si, peut-être, parce que ça, les liens sociaux, ça fait partie du système robuste, et je voilà. crois.
Oui,
tel que le définit Olivier Hamant. On va y revenir, mais bon. Françoise
je pense que les personnes, ils faisaient avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils étaient autour de chez eux qu'ils pouvaient.
Oui, c'est ça, mais on n'a pas forcément besoin d'aller loin.
Mais c'est vrai que ces deux concepts, la proximité et la solidarité, c'est deux points qui sont mis en avant par Olivier Hamant.
Oui, alors voilà, robustesse, c'est effectivement un concept auquel je m'y intéresse depuis peu, hein, parce que je ne connais pas depuis longtemps non plus. Et c'est vrai que moi, ça m'évoque les vêtements plus que l'alimentation, même si on va voir c'est extrêmement pertinent pour l'alimentation. Mais on est dans un monde de fast fashion, de vêtements à peine produits qui deviennent des déchets. Ça nous coûte de l'énergie, de la pollution, du malheur social. Bon, c'est un système qui n'est absolument pas robuste, là, pour le coup. Et en plus, les vêtements eux-mêmes ne sont pas robustes. Et ça pose un problème aux recycleries qui connaissent... Là, on a bien vu, là, avec Habit 29 et un Servette dans le Finistère qui ont mis la clé sous la porte. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils récoltaient, c'était des vêtements qui n'étaient absolument pas vendables pour une seconde main. Donc, c'était du non-robuste par définition. Voilà, fin de la parenthèse.
Mais comme je reprends ce que tu dis sur les vêtements, en discutant avec les personnes âgées que j'ai travaillées, j'entendais qu'ils disaient qu'ils détricotaient les pulls. Il lavait la laine pour faire la laine gonfler à nouveau et il retricotait un nouveau pull. Par contre, chez moi, donc on n'utilisait pas de pull, mais moi, ma mère, elle faisait de la couture, j'ai connu la même chose. Ma mère défaisait les vêtements et elle taillait un autre modèle pour faire la couture et on avait une robe neuve qui avait changé de modèle.
Alors merci, c'était des exemples de robustesse en matière non alimentaire, mais notre sujet, bien sûr, nous sommes dans Oustol, à table, en breton, présenter une émission proposée par l'association 4 quarts qui s'intéresse évidemment à l'alimentation. Et on ne va pas vous cacher qu'il y a surtout une 4 quarienne qui a creusé le sujet aujourd'hui, c'est Sophie. Alors Sophie, pourquoi est-ce que tu as voulu déjà ce sujet-là?
Alors, d'abord parce que je pense que c'est... une façon de mettre en mots et mettre en forme ce que beaucoup de gens observent et vivent, et ça fait longtemps que il y a plein de gens qui tirent les sonnettes d'alarme sur le système dans lequel on vit. Alors, quand on dit on vit, nous, on a toujours tendance à dire les êtres humains. Il y a des tas d'êtres humains, des milliards, à mon avis, d'êtres humains qui vivent de façon robuste.
Ils ne sont pas dans la performance, ils sont dans la survie, en fait.
Exactement. Donc, ne généralisons pas, mais enfin, on a suffi à mettre le bazar sur toute la planète. L'intérêt de la présentation d'Olivier Hamant, c'est qu'il fait du parallèle avec le vivant, donc il s'appuie quand même sur quelque chose qui fait ses preuves au quotidien.
Et qui concerne l'alimentation, parce que les gens oublient que l'alimentation c'est du vivant, c'est vrai.
Bien sûr.
À force d'être emballé, on en a parlé des emballages, mais c'est toujours recouvert de plastique ou d'autres choses, et on oublie que c'est du vivant à la base, l'alimentation.
C'est tellement philosophique qu'on pourrait rebondir en particulier sur les problématiques de manger la viande. Enfin bref, il y a plein à dire.
Non, mais du vivant, le végétal aussi, c'est du vivant de toute façon. C'est du vivant. Voilà.
Mais c'est rappeler que nous sommes vivants et que nous sommes avec le vivant. Et que si le vivant disparaît, de toute façon,
on disparaît aussi.
Le même chemin. C'est totalement illusoire de penser qu'on pourra vivre tout seul.
Bah oui, mais c'est important de le dire quand on va parler de la robustesse en alimentation. Pourquoi ? Parce que c'est une question de survie. Tout simplement.
Parce qu'il faut quand même se rappeler que la première chose dont on a besoin, c'est de respirer.
Oui.
Mine de rien. Après, c'est de boire.
Oui.
Et ensuite, c'est de manger. Bon, puis après, c'est de se reproduire. Mais enfin, avant de se reproduire, il faut déjà avoir pu respirer, boire et manger. Donc effectivement, je vais juste faire une toute petite parenthèse. Quand Olivier Hamon, parce que forcément, il doit être très pédagogique et aller à l'essentiel, il dit qu'on c'est robustesse versus efficacité. Déjà, la notion d'efficacité, en fait, elle est fausse.
Versus performance, c'est pas exactement ce qu'il dit.
Performance.
Parce qu'il dit que dans la performance...
C'est efficacité plus efficience, mais bon, c'est la même idée. En fait, je suis pas sûre du tout qu'on soit dans des systèmes performants. Ils sont performants exclusivement parce qu'ils ne voient qu'un bout du... Et puis parce que le filtre, c'est le financier. Est-ce que je gagne de l'argent ou pas? Mais bien souvent, si on regardait l'intégralité de la supply chain, enfin de l'ensemble du système, on s'apercevrait qu'en fait, on n'est pas du tout sur des systèmes performants.
Bah non, puisqu'on génère plein de pollution, on gâche plein d'énergie. Oui,
exactement.
François.
Et là, pour rebondir sur ce que dit Sophie, on peut donner l'exemple de n'importe quel produit alimentaire. Je prends le yaourt, où on va tirer les prix au maximum. Donc, on va être sur cette performance économique. Mais derrière, on va faire au yaourt 1000 kilomètres. Et là, je ne suis pas certaine, effectivement, qu'on soit sur de la robustesse, puisque on a cette fragilité de par ce monde fluctuant, de par des aléas où il peut y avoir une coupure de la chaîne alimentaire, de par l'énergie carbonée aussi, qu'on va consommer en grande quantité avec l'essence, etc. Et je ne suis pas certaine que ça, on soit dans la robustesse.
On n'est pas dans la robustesse, on est d'accord.
Mais on n'est peut-être même pas dans la performance.
Je voulais dire. Voilà, double raison pour dire que les longs trajets, finalement, ne conviennent plus aujourd'hui.
Est-ce qu'un système alimentaire dans lequel il y a un tiers de la nourriture qui est gaspillée à toutes les échelles, enfin, si on prend toutes les échelles depuis le champ jusqu'à nos frigos, est-ce qu'on peut parler de performance déjà?
Voilà, la question peut vraiment se poser. Donc ça, c'est la première remarque. Bon, après, j'invite les auditeurs qui s'intéresseraient, et je les invite à le faire, parce que c'est très intéressant, aller voir sur Internet, parce qu'Olivier Hamon, aujourd'hui, il y a énormément, c'est un homme qui se donne beaucoup de mal pour justement diffuser un peu ses idées. Je vais revenir sur quelque chose, parce que c'est un homme positif. Il parle de choses qui sont très négatives, mais il est lui-même très positif.
Il propose des solutions, notamment.
Il propose des solutions. Ce qu'il dit, c'est que de toute façon, le monde tel qu'on connaît, il va s'écrouler justement parce qu'il est incapable de faire face à toutes ces fluctuations beaucoup plus grandes, mais tel qu'il est construit aujourd'hui, c'est-à-dire, comme il disait, au mieux 50 ans. Donc de toute façon, derrière, ce qu'il nous invite à faire, c'est à dès maintenant essayer de mettre en place des systèmes robustes. Et c'est pour ça qu'on peut en parler aujourd'hui.
Allons-y.
Parce que voilà, comme ça, on va s'entraîner, on va mettre au point des choses, et quand les ennuis vont continuer à arriver, puisqu'ils sont quand même déjà pas simplement là, on sera d'autant plus prêt. Et c'est le mieux que des gens normaux, qui n'ont pas trop les manettes de tout un tas de choses, peuvent faire. Ça, ils ont la possibilité de le faire dans leur quotidien. Et entre autres, effectivement, sur l'alimentaire.
Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un système robuste en matière alimentaire ?
Une première règle, c'est la proximité. Plus vous allez limiter la circulation, moins vous allez être sensible à des aléas divers et variés. Ce qui n'empêche pas quand même d'avoir des communications, parce que s'il y en a un qui se prend un grand siffle, qui perd toute sa ressource alimentaire, c'est quand même intéressant que les voisins puissent venir l'aider. Et c'est le deuxième grand critère, c'est la solidarité. C'est apprendre à faire ensemble. Alors effectivement, faire ensemble, il y a un vieux, il est toujours, c'est les Africains à la base. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais ensemble, effectivement, on va moins vite.
Oui.
Si on veut le faire de façon solide, il faut prendre le temps d'échanger, etc. Ce qui n'est pas désagréable, forcément. Ce n'est pas forcément une corvée. Mais c'est vrai qu'il y a ce temps-là. Donc, c'est cette organisation-là. Alors, il y a des choses qui existent depuis longtemps. Aller manger des choses de saison, déjà, basiquement. acheter près de chez soi, chez les producteurs près de chez soi. Bon, tout le monde ne peut pas avoir un jardin, mais pour faire pousser les choses dans son jardin, c'est aussi pas mal. La notion d'échange, j'ai dans mon jardin, j'ai un grand prunier qui me donne plein de prunes, et ben je partage. Les moyens de conservation, parce que ça, il faut bien voir que dans l'alimentation, il y a les problèmes de production, mais il y a aussi beaucoup la problématique de la conservation. Donc voilà, il peut y avoir des choses partagées, des petites conserveries partagées. Enfin, on va retrouver en fait la petite échelle. De toute façon, dans la robustesse, il y a la notion de petite échelle et il y a la notion de, justement, de collaboration entre des petites cellules. Mais ça fait longtemps que ça a déjà été étudié en matière d'organisation. En organisation, on dit bien que les meilleures organisations, qui sont très rares, soit c'est des petites cellules. Ça, on sait que les petites cellules sont bien plus efficaces que les gros mastodontes. La difficulté, c'est comment des petites cellules interagissent les unes avec les autres faire des choses grandes.
Bah oui.
Si on doit construire un pont, on ne le fait pas à trois, c'est un peu compliqué. Mais on peut très bien avoir... Voilà, ça, donc, et ça reprend d'ailleurs l'image du vivant. La cellule, c'est comment les cellules travaillent entre elles alors qu'elles sont différentes, qu'elles n'ont pas les mêmes fonctions, etc. C'est vraiment ça que j'ai retrouvé dans le concept de robustesse. Je trouve que son principal mérite, c'est la clarté. C'est une façon assez simple de présenter une problématique et éventuellement les solutions qu'on peut mettre en place. Mais sur le fond, il y a des concepts qui sont là depuis le 19e, hein, c'est pas forcément révolutionnaire.
Enfin, il y a quand même une dimension révolutionnaire, c'est que par exemple, on arrête avec la spécialisation agricole. Enfin, c'est ça que je dis, les régions du monde qui se sont spécialisées, un tel qui fait du vin, c'est telle région donc, qu'on ne nommera pas, qui fait du cochon pour tout le monde... Ben, on ne les nommera pas. On voit bien qui c'est, la région en question.
En France,
bien sûr. Bien sûr.
Ils changent déjà.
Oui, parce qu'en fait, ça, oui, Françoise, oui.
Et la robustesse, d'après ce que j'ai pu lire sur ce que dit Olivier Hamant, c'est sortir de la suroptimisation des systèmes. Et si on prend un exemple alimentaire, on parlait de la conservation. Olivier Hamant, il met en évidence qu'il y a eu un effet, entre guillemets, pervers, rebond, lié à la suroptimisation des réfrigérateurs. Il explique.
Comment ça ? Oui.
Les réfrigérateurs sont de moins en moins énergivores. Donc on est passé de classe D, E à classe A, B. Et donc finalement, de plus en plus de personnes font des caves de maturation achètent pour des caves de maturation de la viande, etc. Et finalement, sortir de cet effet pervers aussi, où on a de l'efficacité énergétique à outrance.
Donc on a plus de réfrigérateurs.
Du coup, au détriment.
Donc on consomme plus.
On va consommer plus de réfrigérateurs.
Et puis le jour où il y aura une grande panne, bonjour le gaspillage.
On sera tous chocolat.
Ah ouais,
on sera vraiment tous chocolat.
Chocolat, c'est ce qui pourrait nous arriver de mieux. Dans une émission comme Oustol, en tout cas. Eh oui, mais d'ailleurs le chocolat, tiens, c'est une question qui va disparaître peut-être à cause du changement climatique, à moins qu'on en fasse pousser en Bretagne, sait-on jamais. Mais c'est ça suppose aussi une adaptation, la robustesse, non ?
Ah, tout à fait, c'est presque un autre mot pour la capacité à s'adapter, d'une certaine façon. D'encaisser les chocs, les variances, les imprévus, et de pouvoir continuer à faire face. Eliane, tu nous racontais un peu comment, dans ton enfance, vous faisiez pour vivre après le passage d'un cyclone.
Ben oui, on vivait avec ce qui restait après le cyclone, donc les bananes.
Oui, mais là, pour le coup, il y avait une hyper spécialisation déjà de la région.
Ben oui, donc même on n'a pas besoin d'aller chercher si loin. Nous avons eu une tempête dernièrement, on est quand même resté 4 jours sans électricité, à Rosnoen. Il y avait des pannes d'eau. Alors comment on fait qu'on n'a pas d'électricité, qu'on a tout électrique?
Trois semaines à Pont-l'Abbé, la tempête, il y a 2 ans.
Kiaran. Mais oui, c'est
comment
ça.
Comment on fait? Bon, bien sûr, si on a une cheminée, donc encore, on peut se réchauffer, on peut cuire dans la cheminée.
C'est ça.
C'est ce que j'ai fait. Ouais. J'ai cuit mes pommes de terre dans la cheminée et j'ai cuit du porc dans la cheminée. Bon, j'ai des voisins, ils avaient une boîte de sardines, ils ont mangé... Des sardines et des pommes de terre. Il y a des conserves aussi.
Oui, mais nous, on a de la chance en Bretagne pour ce qui est de diversifier la culture, enfin la production alimentaire. Là, enfin, on a un climat qui se prête à la polyculture et à l'élevage, on va dire. c'est peut-être pas le cas partout, quoi. C'est non. Voilà. Non. Après.
Pour rebondir sur ce que dit Eliane, en termes de robustesse, quand on est effectivement dans des conditions un peu particulières de panne d'électricité, je suis pas certaine qu'on soit vraiment dans la robustesse quand tout le monde aujourd'hui, enfin 95% des gens, ont des plaques vitrocéram, donc qui marchent à l'électrique, et qui n'ont pas, qu'on virer leurs bouteilles de gaz. Et donc, du coup, on a perdu en autonomie de réchauffage, puisque en cas de panne électrique, ben, à part, si on n'a pas de cheminée, on est à nouveau chocolat.
S'il n'y a pas de bonbonne de gaz.
S'il n'y a pas de bonbonne de gaz.
Oui, ben c'est pareil.
Voilà. Oui, parce que maintenant, on nous dit que nous avons des poêles à bois. Et les poêles à
bois. Oui, mais le bois,
ça marche à électrique.
Ah ben non, puis les poêles à bois, il faut aussi quand même être lucide sur la ressource bois, qui n'est pas inépuisable, contrairement à ce qu'on peut croire. Et en Bretagne, on ne pourrait pas couvrir, si tout le monde passait au bois, on ne pourrait pas couvrir les besoins. Bon, là, il faut apprendre à manger cru, alors.
Mais non, on utilisera du charbon.
Ouais. Cru ou lacto-fermenté.
C'est des bonnes questions. C'est aussi des choix. Est-ce que l'énergie qu'on a, on le met pour cuire? Son alimentation, pour avoir chaud, pour certains, pour avoir froid, l'été. Enfin.
Ou pour regarder des vidéos sur.
Je repense à quelqu'un qui râle parce que l'hiver, il faut chauffer à 23 degrés, parce que sinon, on a froid.
Enfin, 23, c'est beaucoup trop. Hein.
Ouais. Alors, non, mais voilà. 23 degrés, on reste assis. Et qui, l'été, à une clim pour descendre à 18 parce que sinon il fait chaud.
Ça existe, les
chaud.
Gens comme ça.
Ça existe bien plus qu'on ne pense. J'ai vu une enquête là de.
Et beaucoup, c'est beaucoup de personnes justement Denji. Qui chauffent en hiver.
Denji, donc c'est pas une petite boîte sur l'énergie. Et ben oui, dans les gens qui ont des climatiseurs, en fait, c'est justement un paradoxe. C'est qu'on pourrait se dire que les gens ils ont ça pour être étal toute l'année, avoir la. Et ben non, c'est plus chaud l'hiver et plus froid l'été.
L'été, ouais. Enfin, bref.
Et donc un système alimentaire robuste. Donc pour la production, ce serait plutôt de diversifier à nouveau, quoi, autant que possible.
Tout à fait.
Et alors la distribution, bon, ben c'est pareil, quoi. Enfin, c'est avoir des petites unités.
C'est diversifier. C'est aussi, comme tu disais, ne pas gaspiller. Donc retrouver, déjà sûrement refaire la cuisine.
Ben oui.
C'est le fait d'acheter du tout fait. C'est une forme d'optimisation.
De performance,
parce que ça va. Mais après, on peut imaginer des systèmes où il y ait une personne. Parce que c'est vrai, pour les gens qui font la cuisine, on sait bien que faire à manger pour une personne ou faire à manger pour 10 personnes, eh ben, ce n'est pas 10 fois le même boulot de faire à manger pour 10 personnes. Donc il y a quand même une économie d'échelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher quand même à faire les choses intelligemment.
C'est ça, un système robuste n'exclut pas la réflexion partage, d'organisation et la gestion. Exactement. C'est de la gestion quand même.
C'est juste se dire, qu'est-ce qui se passe, s'il se passe ceci, s'il se passe cela, comment on s'adapte, comment, voilà, c'est ne pas s'enfermer dans un système. Et la première chose qui, pour l'être humain, c'est la relation.
Et oui.
D'abord, c'est la transmission, c'est le fait de partager les choses, c'est le fait d'être polyvalent, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, de se coordonner, de savoir se coordonner. Parce que c'est, on va pas être comme les militaires là, qui s'entraînent pour quand c'est la crise, ils ont les réflexes. On peut pas faire avoir des réflexes pour tout. Mais si on a de l'entraînement à la relation, à la communication, à la solidarité, enfin c'est ça la solidarité, eh bien oui, on peut faire face à des imprévus, on peut, parce qu'on sait s'adapter collectivement.
C'est ça. Si on a cultivé ces réseaux de cuisine, par exemple, si on a appris à cultiver avec ses voisins, ce qui serait le... cuisiner avec ses voisins, pardon, ce qui serait le thème d'une autre émission, si on a l'habitude, on sait qui a quoi...
Mais les... C'est ça. C'est... Voilà.
Mais c'est pas mal.
Ben, c'est très bien. Non, mais
c'est
moi,
pas
je
mal
suis...
de cuisiner avec ses voisins.
Mais si on s'entend bien avec
eux. Est-ce qu'Olivier Hammond dit, moi je suis convaincue, hein, mais il dit, en plus, vous allez voir qu'on va pas y perdre. Que même si on va peut-être avoir l'impression que c'est moins confortable qu'avant, la réalité, c'est qu'on sera plus heureux.
Bien.
Le confort, en tout cas, le fait d'avoir qu'à se lever, prendre sa canette...
Ouvrir une barquette, est-ce que ça rend heureux, ouais.
Et puis
c'est
après,
ça.
Devant son ordinateur, là, tout seul pendant... Et puis finalement, après, on a besoin d'antidépresseurs, ça va pas, ça. Etc. On peut pas dire que notre monde, il est hyper performant en matière de production de bonheur.
Si on va comme ça, non, c'est pas... Allez, on termine avec peut-être une des recettes, des trucs, astuces robustes. Tu veux nous parler de la lactofermentation ?
Vas-y. Bah, écoute, si tu veux, la lactofermentation, c'est une fermentation sans énergie, des légumes, notamment, hein, donc, que l'on sale et puis que l'on laisse lactofermenter. Donc, ils sont ni crus, ni cuits. Et en fait, ils génèrent plus de vitamine C par rapport...
C'est incroyable.
Ouais, par rapport, et d'autres vitamines par rapport à la quantité initiale de départ. Donc, c'est assez intéressant.
Donc, sel et l'eau, ça crée une acidité, une acidification avec leur interaction.
Ça transforme, en fait, le sucre présent et ça acidifie aussi le milieu.
Donc, c'est un goût particulier, la fermentation.
Un petit peu particulier. Et le principal exemple que tout le monde connaît, c'est par exemple la choucroute.
Ben voilà.
Ah, oui. C'est du chou salé. Et au Moyen-Âge, en fait, quand les premiers bateaux de Christophe Colomb ont traversé l'océan, ils avaient embarqué de la choucroute de façon à éviter le scorbut.
Le manque de vitamine C.
De vitamine C, voilà. Et d'autres bateaux, alors je ne pourrais pas vous citer les noms, qui n'embarquaient pas de choucroute, en fait, beaucoup de marins mouraient du scorbut. Voilà, donc c'est comme ça qu'on a compris l'intérêt de la lactofermentation. Je ne suis pas certaine qu'on l'appelait comme ça à l'époque.
Ouais. Et on peut mettre presque tous les légumes en lactofermentation.
Les carottes.
Sauf la pomme de terre.
Les gingembres. Ouais, avec les courges, ça ne marche pas très bien non plus. Voilà, donc après, il ne faut pas en manger de grandes quantités. Ça se fait tout seul. Et il y a un combat entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Et c'est les bonnes qui gagnent. Donc, c'est beaucoup moins sanitairement risqué de faire de la lactofermentation que de faire de la stérilisation, par exemple.
Et de faire des conserves familiales.
Ouais, ouais. Ouais. Il n'y aura
pas de botulisme dans un aliment lactofermenté, par exemple.
Jamais. Voilà. La seule petite chose, peut-être, qu'il faut regarder, c'est si vous avez des produits, des matières premières qui deviennent rose fluo. Là, ce n'est pas bon. Il faut tout jeter. C'est un signe. C'est un signe évident, ou des mauvaises odeurs. Mais sinon, quand on laisse, en fait, on laisse lactofermenter un mois et demi sur des bocaux fermés, ça ne doit pas changer de couleur. L'eau salée reste claire. À l'ouverture, on doit avoir une bonne odeur, parce qu'on met de l'eau, du sel à raison d'un ou à 1,5%.
C'est 30 grammes par litre, voilà la proportion.
30 grammes par litre. Voilà, et on peut mettre des aromates aussi qui vont donner bon goût.
Exactement. Merci beaucoup, Françoise. Merci beaucoup, mesdames.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Ainsi se termine sans amertume cette émission robuste. Il y aura aussi beaucoup d'acidité dans la prochaine émission, puisqu'on se penchera sur le citron très bientôt sur les ondes de Transistor, et aussi cette émission Ousto disponible en podcast sur le site internet de la radio.
Ousto sur les ondes de Transistor.
Et en podcast sur le site internet.